Chapitre 18. La sellette, d'une grille et d'un abbé, l'arrêt. Le jour était venu enfin après de longs débats où l'arrêt de la cour du Parlement allait être provoqué par les conclusions du procureur général. Les accusés, à l'exception de M. de Rohan, avaient été transférés à la conciergerie pour être plus rapprochés de la salle d'audience qui s'ouvrait à 7 heures chaque matin. Devant les juges, présidés par le premier président d'Aligre, la contenance des accusés avait continué d'être ce qu'elle avait été pendant l'instruction. Oliva, franche et timide, Cagliostro, tranquille, supérieur, et rayonnant parfois de cette splendeur mystique qu'il se plaisait à affecter. Villette, honteux, bas et pleurant. Jeanne, insolente, l'œil étincelant, toujours menaçante et venimeuse. Le cardinal, simple rêveur, frappé d'atonie. Jeanne avait bien vite pris les habitudes de la conciergerie et capté par ses caresses mielleuses et ses petits secrets les bonnes grâces de la concierge du palais, de son mari et de son fils. De cette façon, elle s'était rendue la vie plus douce et les communications plus libres. Il faut toujours plus de place au singe qu'au chien, à l'intrigant qu'à l'esprit tranquille. Les débats n'apprirent rien, rien de nouveau à la France. C'était bien toujours ce même collier volé avec audace par l'une ou l'autre des deux personnes qu'on accusait et qui s'accusaient réciproquement. Décider entre les deux quel était le voleur, c'était tout le procès. Cet esprit qui porte les Français toujours et qui portait surtout en ce temps-là aux extrêmes avait greffé un autre procès sur le véritable. Il s'agissait de savoir si la reine avait eu raison de faire arrêter le cardinal et de l'accuser de téméraires incivilités. Pour quiconque raisonnait politique en France, cette annexe au procès constituait la cause véritable. Monsieur de Rohan avait-il cru pouvoir dire à la reine ce qu'il lui avait dit, agir en son nom comme il l'avait fait? Avait-il été l'agent secret de Marie-Antoinette, agent désavoué, sitôt que l'affaire avait fait du bruit? En un mot, dans cette cause indécente, le cardinal inculpé avait-il agi de bonne foi, comme un confident intime vis-à-vis de la reine? S'il avait agi de bonne foi, la reine était donc coupable de toutes ces intimités, même innocentes, qu'elle avait niées et que Madame de Lamothe insinuait avoir existé. Et puis, comme total aux yeux de l'opinion, qui ne ménage rien, des intimités sont-elles innocentes qu'on est contrainte de nier à son mari, à ses ministres, à ses sujets? Tel est le procès que les conclusions du procureur général vont diriger vers son but, vers sa morale. Le procureur général prend la parole. Il était l'organe de la cour. Il parlait au nom de la dignité royale méconnue, outragée. Il plaidait pour le principe immense de l'inviolabilité royale. Le procureur général entrait dans le procès réel pour certains accusés. Il prenait corps à corps le procès incident quant au cardinal. Il ne pouvait admettre que dans cette affaire du collier, la reine pût assumer sur elle un tort, un seul. Si elle n'en avait aucun, ils tombaient donc tous sur la tête du cardinal. Il conclut donc inflexiblement à la condamnation de Villette aux galères, à la condamnation de Jeanne de Lamothe en la marque, le fouet et la réclusion à perpétuité dans l'hôpital, à la mise hors de cause de Cagliostro, au renvoi pur et simple d'Oliva, à l'aveu auquel serait contraint le cardinal d'une témérité offensante envers la majesté royale, aveu à la suite duquel il serait banni de la présence du roi et de la reine et dépouillé de ses charges et dignités. Ce risitoire frappa le Parlement d'indécision et les accusés de terreur. La volonté royale s'y expliquait de telle force que l'on eût vécu un quart de siècle auparavant, alors même que les parlements avaient commencé à secouer le joug et à revendiquer leurs prérogatives. Ces conclusions du procureur du roi eussent été dépassées par le zèle et le respect des juges pour le principe encore vénéré de l'infaillibilité du trône. Mais 14 conseillers seulement adoptèrent l'opinion complète du procureur général et la division se mit dès lors dans l'assemblée. On procéda au dernier interrogatoire, formalité presque inutile avec de pareils accusés, puisqu'il avait pour but de provoquer des aveux avant l'arrêt et qu'il n'y avait ni paix ni trêve à demander aux acharnés adversaires qui luttaient depuis si longtemps. C'était moins leur propre absolution qu'ils demandaient que la condamnation de leur parti. L'usage était que l'accusé comparût devant ses juges, assis sur un petit siège de bois, siège humble, bas, honteux, déshonoré par le contact des accusés qui, de ce siège, avaient passé à l'échafaud. C'est là que vint s'asseoir le faussaire Villette, qui demanda pardon avec ses larmes et ses prières. Il déclara tout ce qu'on sait, savoir qu'il était coupable de faux, coupable de complicité avec Jeanne de Lamotte. Il témoigna que son repentir, ses remords étaient déjà pour lui un supplice capable de désarmer ses juges. Celui-là n'intéressait personne. Il n'était et ne parut rien autre chose qu'un coquin. Congédié par la cour, il regagna en larmoyant sa cellule de la conciergerie. Après lui parut à l'entrée de la salle Madame de Lamotte, conduite par le greffier Frémin. Elle était vêtue d'un mantelet et d'une chemise de linon batiste, d'un bonnet de gaze sans ruban. Une sorte de gaze blanche lui couvrait le visage. Elle portait ses cheveux sans poudre. Sa présence fit vive impression sur l'assemblée. Elle venait de subir le premier des outrages auxquels elle était réservée. On l'avait fait passer par le petit escalier, comme les criminels vulgaires. La chaleur de la salle, le bruit des conversations, le mouvement des têtes qui ondulaient de tous côtés commencèrent par la troubler. Ses yeux vacillèrent un moment comme pour s'habituer au miroitement de tout cet ensemble. Alors le même greffier qui la tenait par la main la conduisit assez vivement à la sellette placée au centre de l'hémicycle et pareil à ce petit bloc sinistre qu'on appelle le billot quand il se dresse sur un échafaud au lieu de s'élever dans une salle d'audience. À la vue de ce siège infamant qu'on lui destinait, à elle, orgueilleuse de s'appeler Valois et de tenir en ses mains la destinée d'une reine de France, Jeanne de Lamotte pâlit. Elle jeta un regard courroucé autour d'elle, comme pour intimider les juges qui se permettaient cet outrage, mais rencontrant partout des volontés fermes et de la curiosité au lieu de miséricorde, elle refoula son indignation furieuse et s'assit, pour n'avoir pas l'air de tomber sur la sellette. On remarqua dans les interrogatoires qu'elle donnait à ses réponses tout le vague auquel les adversaires de la reine eussent pu tirer plus d'avantages pour défendre leur opinion. Elle ne précisa rien que les affirmations de son innocence et força le président de lui adresser une question sur l'existence de ces lettres qu'elle disait venir du cardinal pour la reine, de celles aussi que la reine aurait écrites au cardinal. Tout le venin du serpent allait se répandre dans la réponse à cette question. Jeanne commença par protester de son désir de ne pas compromettre la reine. Elle ajouta que nul mieux que le cardinal ne pouvait répondre à la question. « Invitez-le, dit-elle, à produire ses lettres ou copies pour en faire la lecture et satisfaire votre curiosité. Quant à moi, je ne saurais affirmer si ces lettres sont du cardinal à la reine ou de la reine au cardinal. Je trouve celles-ci trop libres et trop familières d'une souveraine à un sujet. Je trouve celles-là trop révérencieuses venant d'un sujet pour aller à une reine. » Le silence profond, terrible, qui accueillit cette attaque, dut prouver à Jeanne qu'elle n'avait inspiré que de l'horreur à ses ennemis, de l'effroi à ses partisans, de la défiance à ses juges impartiaux. Elle ne quitta la sellette qu'avec le doux espoir que le cardinal y serait assis comme elle. Cette vengeance lui suffisait, pour ainsi dire. Que devint-elle quand, en se retournant pour considérer une dernière fois ce siège d'opprobre où forçait un rohan de s'asseoir après elle, elle ne vit plus la sellette que, sur ordre de la cour, les huissiers avaient fait disparaître et remplacer par un fauteuil. Un rugissement de rage s'exhala de sa poitrine, elle bondit hors de la salle et se mordit les mains avec frénésie. Son supplice commençait. Le cardinal s'avança lentement à son tour. Il venait de descendre du carrosse. La grande porte avait été ouverte pour lui. Deux huissiers, deux greffiers l'accompagnaient. Le gouverneur de la Bastille marchait à son côté. À son entrée, un long murmure de sympathie et de respect partit des bancs de la cour. Il y fut répondu par une puissante acclamation du dehors. C'était le peuple qui saluait l'accusé et le recommandait à ses juges. Le prince Louis était pâle, très ému. Vêtu d'un habit long de cérémonie, il se présentait avec le respect et la condescendance dus à des juges par un accusé qui accepte leur juridiction et l'invoque. On montra le fauteuil au cardinal, dont les yeux avaient craint de se porter vers l'enceinte, et le président, lui ayant adressé un salut et une parole encourageante, toute la cour le pria de s'asseoir avec une bienveillance qui redoubla la pâleur et l'émotion de l'accusé. Lorsqu'il prit la parole, sa voix tremblante, coupée de soupirs, ses yeux troublés, son maintien humble, remuèrent profondément la compassion de l'auditoire. Il s'expliqua lentement, présenta des excuses plutôt que des preuves, des supplications plutôt que des raisonnements, et, s'arrêtant tout à coup, lui, l'homme éloquent, disait, il produisit, par cette paralysie de son esprit et de son courage, un effet plus puissant que tous les plaidoyers et tous les arguments. Ensuite parut Oliva, la pauvre fille, retrouva la sellette. Bien des gens frémirent en voyant cette vivante image de la reine sur le siège honteux qu'avait occupé Jeanne de Lamothe. Ce fantôme de Marie-Antoinette, reine de France, sur la sellette des voleuses et des faussaires, épouvanta les plus ardents persécuteurs de la monarchie. Ce spectacle aussi en allécha plusieurs comme le sang que l'on fait goûter au tigre. Mais on se disait partout que la pauvre Oliva venait au greffe de quitter son enfant, qu'elle allaitait, et quand la porte venait de s'ouvrir, les vagissements du fils de Monsieur Beausire venaient plaider douloureusement en faveur de la mère. Après Oliva parut Cagliostro, le moins coupable de tous, il ne lui fit pas enjoint de s'asseoir, bien que le fauteuil eût été conservé près de la sellette. La cour craignait le plaidoyer de Cagliostro. Un semblant d'interrogatoire coupé par le « c'est bien » du président d'Allègre satisfit aux exigences de la formalité. Et alors la cour annonça que les débats étaient clos et que la délibération commençait. La foule s'écoula lentement par les rues et les quais, se promettant de revenir dans la nuit pour entendre l'arrêt qui, disait-on, ne tarderait pas à être prononcé. Les débats terminés, après le retentissement de l'interrogatoire et les émotions de la sellette, tous les prisonniers furent logés pour cette nuit à la conciergerie. La foule, ainsi que nous l'avons dit, vint au soir se placer en groupe silencieux, quoique animé, sur la place du palais pour recevoir fraîchement la nouvelle de l'arrêt aussitôt qu'il serait rendu. À Paris, chose étrange, les grands secrets sont précisément ce que la foule connaît avant qu'ils n'aient éclaté de leur entier développement. La foule attendait donc, en savourant la réglisse anisée dont ses fournisseurs ambulants trouvaient l'alimentation première sous la première arche du pont au change. Il faisait chaud, les nuages de juin roulaient lourdement les uns sur les autres comme des panaches d'épaisse fumée. Le ciel brillait à l'horizon de feux pâles et réitérés. Tandis que le cardinal, à qui la faveur avait été accordée de se promener sur les terrasses qui relient les donjons, s'entretenait avec Cagliostro du succès probable de leur mutuelle défense, tandis qu'Oliva, dans sa cellule, caressait son petit enfant et le berçait entre ses bras, tandis que dans sa loge, retôt, l'œil sec, les ongles dans ses dents, comptait en idée les écus promis par Monsieur de Crone et les opposait comme total au mois de captivité que lui promettait le Parlement. Pendant ce temps, Jeanne, retirée en la chambre de la concierge, Madame Hubert, essayait de distraire son esprit brûlé avec un peu de bruit, avec un peu de mouvement. Cette chambre, haute de plafond, vaste comme une salle, dallée comme une galerie, était éclairée sur le quai par une grande fenêtre en ogive. Les petites vitres de cette fenêtre interceptaient la plus grande partie du jour, et comme si, dans cette chambre même où logeaient des gens libres, on eût dû épouvanter la liberté, un énorme grillage de fer appliqué au dehors venait sur les vitres mêmes doubler l'obscurité par l'entrecroisement des barres de fer et des filets de plomb qui encadraient chaque losange de verre. Du reste, la lumière qui tamisait ce double crible était comme adoucie pour l'œil des prisonniers. Elle n'avait plus rien de ce rayonnement insolent du soleil libre. Elle n'était point faite pour offenser ceux qui ne pouvaient sortir. Il y a dans toute chose, même dans les mauvaises que l'homme a faites, si le temps, ce pondérateur intermédiaire entre l'homme et Dieu, a passé par-dessus, il y a des harmonies qui mitigent et permettent une transition entre la douleur et le sourire. C'est dans cette salle que, depuis sa réclusion à la conciergerie, Madame de Lamotte vivait tout le jour en compagnie de la concierge, de son fils et de son mari. Nous avons dit qu'elle avait l'esprit souple, le caractère séduisant. Elle s'était fait aimer de ces gens, elle avait trouvé moyen de leur prouver que la reine était une grande coupable. Un jour devait venir où, dans cette même salle, une autre concierge, apitoyée aussi sur les malheurs d'une prisonnière, la croirait innocente en la voyant patiente et bonne, et cette prisonnière, ce serait la reine. Madame de Lamotte allait donc, c'est elle-même qui le dit, oublier dans la société de cette conciergerie et de ses connaissances ses idées mélancoliques, et payer ainsi par sa belle humeur les complaisances qu'on avait pour elle. Ce jour-là, jour de la clôture de l'audience, quand Jeanne revint auprès de ses bonnes gens, elle les trouva soucieux et gênés. Une nuance n'était pas indifférente à cette femme rusée. Elle espérait avec rien, elle s'alarmait avec tout. En vain essayait-elle d'arracher la vérité à Madame Hubert, celle-ci et les siens se renfermèrent dans des généralités banales. Ce jour-là, disons-nous, Jeanne aperçut dans le coin de la cheminée un abbé, commença l'intermittent de la maison. C'était un ancien secrétaire du précepteur de Monsieur le comte de Provence, homme simple de façon, caustique avec mesure, sachant sa cour et qui, depuis longtemps éloigné de la maison de Madame Hubert, était redevenu assidu depuis l'arrivée de Madame de Lamotte à la conciergerie. Il y avait aussi deux ou trois des employés supérieurs du palais. On regardait beaucoup Madame de Lamotte, on parlait peu. Elle prit gaiement l'initiative. « Je suis sûre, dit-elle, qu'on cause plus chaudement là-haut que nous ne parlons ici. » Un faible murmure d'assentiment, échappé au concierge et à sa femme, répondit seul à cette provocation. « En haut, fit l'abbé, jouant l'ignorance, où cela, madame la comtesse ?»« Dans la salle où mes juges délibèrent, répliqua Jeanne. « Oh, oui, oui, dit l'abbé. » Et le silence recommença. « Je crois, dit-elle, que mon attitude d'aujourd'hui a fait bon effet. Vous devez déjà savoir cela, n'est-ce pas ?»« Mais oui, madame, dit timidement le concierge. » Et il se leva, comme pour rompre l'entretien. « Votre avis, monsieur l'abbé ? Reprit Jeanne. Est-ce que mon affaire ne se dessine pas bien ? Songez qu'on n'articule aucune preuve. »« Il est vrai, madame, dit l'abbé aussi, avez-vous beaucoup à espérer ?»« Ah, n'est-ce pas ? S'écria-t-elle. » Cependant, ajouta l'abbé, supposez que le roi... Eh bien, le roi, que fera-t-il ? Dit Jeanne avec véhémence. Eh bien, le roi peut ne vouloir pas qu'on lui donne un démenti. Il faut condamner monsieur de Rohan, alors, c'est impossible. Il est vrai que cela aussi est difficile, répondit-on de toutes parts. Or, se hâta de glisser Jeanne dans cette cause, qui dit monsieur de Rohan, dit moi. Non pas, reprit l'abbé. Vous faites illusion, madame. Il y aura un accusé absous. Moi, je pense que ce sera vous, je l'espère, mais il n'y en aura qu'un. Il faut un coupable au roi. Autrement, que deviendrait la reine ? C'est vrai, dit sourdement Jeanne, blessée d'être contredite, même sur une espérance qu'elle ne faisait qu'affecter. Il faut un coupable au roi. Eh bien, alors, monsieur de Rohan est aussi bon que moi pour cela. Un silence effrayant pour la comtesse s'établit après ces paroles. L'abbé le rompit le premier. « Madame, dit-il, le roi n'a pas de rancune, et sa première colère satisfaite, il ne songera pas au passé. »« Mais qu'appelez-vous une colère satisfaite ? » Dit Jeanne avec ironie. « Néron avait ses colères, comme Titus avait les siennes. » « Une condamnation quelconque, se hâta de dire l'abbé, c'est une satisfaction. »« Quelconque, monsieur ?» s'écria Jeanne. « Voilà un affreux mot, il est trop vague. Quelconque, c'est tout dire. »« Oh, je ne parle que d'une réclusion dans un couvent, » répliqua froidement l'abbé. « C'est l'idée que, d'après les bruits qui courent, le roi aurait adopté le plus volontiers à votre égard. » Jeanne regarda cet homme avec une terreur qui fit place aussitôt à la plus furieuse exaltation. La réclusion dans un couvent, dit-elle, c'est-à-dire une mort lente, ignominieuse par les détails, une mort féroce qui paraîtra un acte de clémence, la réclusion dans l'in pace, n'est-ce pas, les tortures de la faim, du froid, des corrections, non, assez de supplices, assez de honte, assez de malheur pour l'innocence, quand la coupable est puissante, libre, honorée, la mort tout de suite, mais la mort que j'aurais choisie, le libre arbitre pour me punir d'être née à ce monde infâme. Et sans écouter ni les représentations ni les prières, sans souffrir qu'on l'arrêtât, repoussant le concierge, renversant l'abbé, écartant Madame Hubert, elle courut à un dressoir pour y chercher un couteau. Ces trois personnes réussirent à la détourner. Elle prit sa course comme une panthère que les chasseurs ont inquiétée, non effrayée, et poussant des hurlements d'une colère trop bruyante pour être naturelle, elle s'élança dans un cabinet attenant à la salle, et là, soulevant un énorme vase de faïence dans lequel végétait un rosier étiolé, elle s'en frappa la tête à plusieurs reprises. Le vase se brisa, un morceau demeura dans la main de cette furie, on vit le sang couler sur son front et par les gerçures de la peau qui s'était fendue. Le concierge se jeta en pleurant dans ses bras, on l'assit sur un fauteuil, on l'inonda d'eau de senteur de vinaigre. Elle s'était évanouie après d'affreuses convulsions. Lorsqu'elle revint à elle, l'abbé pensa qu'elle s'étouffait. « Voyez, dit-il, ce grillage intercepte le jour et l'air. N'est-il pas possible de faire respirer un peu cette pauvre femme ?» Alors Madame Hubert, oubliant tout, courut à une armoire située près de la cheminée, en tira une clé qui lui servit à ouvrir ce grillage, et aussitôt l'air et la vie entrèrent à flot dans l'appartement. « Ah ! Dit l'abbé, je ne savais pas que ce grillage pût s'ouvrir à l'aide d'une clé. Pourquoi tant de précautions, mon Dieu ?» « C'est l'ordre, répliqua la concierge. « Oui, je comprends, ajouta l'abbé avec une intention marquée. Cette fenêtre n'est qu'à 7 pieds environ du sol, elle donne sur le quai. S'il arrivait que des prisonniers s'échappassent de l'intérieur de la conciergerie, en passant par votre salle, ils trouveraient la liberté sans avoir rencontré un seul porte-clés ni une sentinelle. « Précisément, dit la concierge. » L'abbé remarqua du coin de l'œil que Madame de Lamotte avait entendu, compris, qu'elle avait tressailli même, et qu'aussitôt après avoir recueilli les paroles de l'abbé, elle avait levé les yeux sur l'armoire, fermée seulement par un bouton de cuivre où la concierge serrait cette clé de la grille. C'en fut assez pour lui, sa présence ne paraissait plus utile, il prit congé. Cependant, revenant sur ses pas, comme les personnages de théâtre qui font une fausse sortie, « Que de monde sur la place, dit-il, toute la foule se porte avec tant d'acharnement de ce côté du palais qu'il n'y a pas une âme sur le quai. » Le concierge se pencha au dehors. « C'est vrai, dit-il. » « Ne pense-t-on pas, poursuivit l'abbé, toujours comme si Madame de Lamotte ne pouvait l'entendre, mais elle l'entendait fort bien, ne croirait-on pas que l'arrêt sera rendu dans la nuit? Non, n'est-ce pas ?»« Je ne suppose pas, dit le concierge, qu'il soit rendu avant demain matin. » « Eh bien, ajouta l'abbé, tâchez de laisser reposer un peu cette pauvre Madame de Lamotte. Après tant de secousses, elle doit avoir besoin de repos. » « Nous nous retirerons dans notre chambre, dit le brave concierge à sa femme, et nous laisserons madame ici sur le fauteuil, à moins qu'elle ne veuille s'aller mettre au lit. » Jeanne, se soulevant, rencontra l'œil de l'abbé, qui guettait sa réponse. Elle feignit de se rendormir. Alors l'abbé disparut, et le concierge et sa femme partirent aussi, après avoir refermé doucement la grille et remis la clé à sa place. Aussitôt qu'elle fut seule, Jeanne ouvrit les yeux. « L'abbé me conseille de fuir, pensa-t-elle. Peut-on plus clairement m'indiquer et la nécessité de l'évasion et le moyen, me menacer d'une condamnation avant l'arrêt des juges? C'est d'un ami qui veut me pousser à prendre ma liberté. Ce ne peut être d'un barbare qui m'insulte. Pour m'enfuir, je n'ai qu'un pas à faire. J'ouvre cette armoire, puis cette grille, et me voilà sur le quai désert. » Désert, oui, personne, la lune elle-même se cache dans les cieux. Fuis, oh, la liberté, le bonheur de retrouver mes richesses, le bonheur de rendre à mes ennemis tout le mal qu'ils m'auront fait. Elle s'élança vers l'armoire et saisit la clé. Déjà, elle s'approchait de la serrure du grillage. Soudain, elle crut voir, sur la ligne noire du parapet du pont, une forme noire qui coupait l'uniforme régularité. Un homme était là, dit-elle, dans l'ombre. L'abbé, peut-être. Il veille sur mon évasion. Il m'attend pour me prêter secours. Oui, mais si c'était un piège, si, descendu sur le quai, j'allais être saisi, surprise en flagrant délit d'évasion. L'évasion, c'est l'aveu du crime, l'aveu du moins de la peur, qui s'évade, fuit devant sa conscience. D'où vient cet homme? Il paraît se rattacher à monsieur de Provence. Qui me dit que ce n'est pas un émissaire de la reine ou des Rohan? Ah, comme on paierait cher de ce côté une fausse démarche de ma part. Oui, quelqu'un est là qui guette. Me faire fuir quelques heures avant l'arrêt, ne le pouvait-on plus tôt si l'on eût voulu véritablement me servir? Mon Dieu, qui sait si déjà la nouvelle n'est parvenue à mes ennemis de mon acquittement résolu dans le conseil des juges? Qui sait si l'on ne veut parer ce coup terrible pour la reine avec une preuve ou un aveu de ma culpabilité? L'aveu, la preuve, ce serait la fuite. Je resterai. Jeanne, à partir de ce moment, demeura convaincue qu'elle venait d'échapper au piège. Elle sourit, redressa sa tête astucieuse et hardie, et, d'un pas assuré, elle alla remettre la clé du grillage dans la petite armoire près de la cheminée. Puis, se rasseyant dans le fauteuil entre la lumière et la fenêtre, elle observa de loin, tout en feignant de dormir, l'ombre de cet homme qui guettait et qui, fatigué sans doute d'attendre, finit par se lever et par disparaître aux premières lueurs de l'aube à 2h30 du matin, alors que l'œil commence à distinguer l'eau de ses rives. Au matin, quand tous les bruits renaissent, quand Paris reprend la vie, ou nous, un nouveau chaînon, au chaînon de la veille, la comtesse espéra que la nouvelle d'un acquittement allait tout à coup pénétrer dans sa prison avec la joie et les félicitations des amis. Avait-elle des amis? Hélas, jamais la fortune, jamais le crédit ne demeure sans cortège, et cependant Jeanne était devenue riche, puissante. Elle avait reçu, elle avait donné, sans s'être fait même, l'ami banal qui doit brûler le lendemain d'une disgrâce ce qu'il a complimenté la veille. Mais après son triomphe qu'elle attendait, Jeanne aurait des partisans, elle aurait des admirateurs, elle aurait des envieux. Ce flot pressé de gens au joyeux visage, elle s'attendait vainement à le voir pénétrer dans la salle du concierge Hubert. De l'immobilité d'une personne convaincue et qui laisse venir les bras à elle, Jeanne passa, c'était la pente de son caractère, à une inquiétude excessive. Et comme on ne peut toujours dissimuler, elle ne prit point la peine avec ses gardiens de cacher ses impressions. Il ne lui était pas permis de sortir pour aller s'informer, mais elle passa sa tête au vasistas d'une des fenêtres, et là, anxieuse, elle prêta l'oreille au bruit de la place voisine, bruit qui se résolvait en murmures confus après avoir percé l'épaisseur des murs du vieux palais de Saint-Louis. Jeanne entendit alors non pas une rumeur, mais une véritable explosion, des bravos, des cris, des trépignements, quelque chose d'éclatant qui l'épouvanta, car elle n'avait pas la conscience que ce fut pour elle qu'on témoigna tant de sympathie. Ces salves bruyantes se répétèrent deux fois et firent place à des bruits d'un autre genre. Il lui sembla que c'était l'approbation aussi, mais une approbation calme et sitôt morte que née. Bientôt, les passants devinrent plus fréquents sur le quai, comme si les groupes de la place se dissolvaient et renvoyaient en détail leurs masses dispersées. « Un fameux jour pour le cardinal !» dit une sorte de clerc de procureur en bondissant sur le pavé près du parapet. Et il jeta une pierre dans la rivière avec cette habileté du jeune Parisien qui a consacré beaucoup de ses journées à l'exercice de cet art exhumé de la palestre antique. « Pour le cardinal, répéta Jeanne, il y a donc nouvelle que le cardinal est acquitté ?» Une goutte de fiel, une goutte de sueur tomba du front de Jeanne. Elle rentra précipitamment dans la salle. « Madame, madame, demanda-t-elle à la femme Hubert, qu'entends-je dire ?» Que c'est un heureux jour pour le cardinal. Quoi donc être heureux, s'il vous plaît? Je ne sais, répliqua celle-ci. Jeanne la regarda bien en face. Demandez à votre mari, je vous prie, ajouta-t-elle. La concierge obéit par complaisance et Hubert répondit du dehors « Oh, je ne sais pas !» Jeanne, impatiente, froissée, s'arrêta un moment au milieu de la chambre. « Que voulait dire ces passants alors ? » dit-elle. « On ne se trompe pas, ces sortes d'oracles. Ils parlaient du procès, bien sûr. »
« Peut-être, fit le charitable Hubert, voulait-il dire que si monsieur de Rohan est acquitté, ce sera un beau jour pour lui, voilà tout. »«
Vous croyez qu'il sera acquitté ? » s'écria Jeanne en crispant ses doigts.
« Cela peut arriver. Moi alors ? Oh, vous, madame, vous comme lui, pourquoi pas vous ?»«
Étrange hypothèse, murmura Jeanne, et elle se remit aux vitres.
« Vous avez tort, je crois, madame, lui dit le concierge, d'aller chercher ainsi des émotions qui vous arrivent mal compréhensibles du dehors. Restez, croyez-moi, paisible, en attendant que votre conseil ou monsieur Frémin vienne vous lire. »«
L'arrêt, non, non !» Et elle l'écouta. Une femme passait avec ses amis, bonnet de fête, gros bouquet à la main. L'odeur des roses monta comme un baume précieux jusqu'à Jeanne, qui aspirait tout d'en bas.
« Il aura mon bouquet !» cria cette femme. « Et cent autres encore, le cher homme. Ah, si je puis, je l'embrasserai !»«
Et moi aussi !» dit une compagne.
« Et moi, je veux qu'il m'embrasse !» dit une troisième.
« Et de qui veulent-elles parler ?» pensa Jeanne. « C'est qu'il est très bel homme, tu n'es pas dégoûtée !» fit une dernière à ses amis. Et tout passa. « Encore le cardinal, toujours lui !» murmura Jeanne. « Qu'il est acquitté, il est acquitté !» Et elle prononça ces mots avec tant de découragement et de certitude en même temps que les concierges, résolus de ne pas occasionner une tempête comme celle de la veille, lui dirent en même temps « Hé, madame, pourquoi ne voudriez-vous pas que le pauvre prisonnier fût absous et libéré ?»
Jeanne sentit le coup, elle sentit surtout le changement de ses hôtes, et voulant ne rien perdre de leur sympathie,
« Oh, dit-elle, vous ne me comprenez pas, hélas, vous me croyez si envieuse ou si méchante que je désire le mal de mes compagnons d'infortune. Oh, mon Dieu, qu'il soit absous, monsieur le cardinal, oh oui, qu'il le soit, mais moi, que je sache enfin, croyez-moi donc, mes amis, c'est l'impatience qui me rend ainsi. »
Hubert et sa femme se regardèrent l'un et l'autre comme pour mesurer la portée de ce qu'ils voulaient faire. Un fauve éclair qui jaillit des yeux de Jeanne, malgré elle, les arrêta comme ils allaient prendre une décision.
« Vous ne me dites rien ? » s'écria-t-elle, s'apercevant de sa faute.
« Nous ne savons rien, » reprirent-ils plus bas. À ce moment, un ordre appela Hubert hors de son appartement. La concierge, demeurée seule avec Jeanne, essaya de la distraire. Ce fut en vain. Tous les sens de la captive, toute son intelligence, étaient sollicités à l'extérieur par les bruits, par les souffles qu'elle percevait avec une susceptibilité décuplée de la fièvre. La concierge, ne pouvant plus l'empêcher de regarder dégoûtée, se résigna. Soudain, un grand bruit, un grand mouvement se firent sur la place. La foule reflua sur le pont, jusque sur le quai, avec des cris tellement compacts, tellement réitérés, que Jeanne en tressaillit à son observatoire. Ces cris ne cessaient pas. Ils s'adressaient à une voiture découverte, dont les chevaux, retenus par la main du cocher, bien moins que par la foule, marchaient à peine aux plus petits pas. Peu à peu, la multitude les pressant, les serrant, portait sur ses épaules, sur ses bras, chevaux, carrosses et deux personnages que contenait le carrosse. Au grand rayon du soleil, sous une pluie de fleurs, sous un dôme de feuillage que mille mains ajoutaient au-dessus de leur tête, la comtesse reconnut ces deux hommes qu'enivrait la foule enthousiaste. L'un, pâle de son triomphe, effrayé de sa popularité, demeurait grave, étourdi, tremblant. Des femmes montaient aux jantes de ses roues, lui arrachaient les mains pour les dévorer de baisers, et se disputaient à grands coups la dentelle de ses manchettes qu'elles avaient payées en fleurs les plus fraîches et les plus rares. D'autres, plus heureux encore, étaient montés sur l'arrière du carrosse avec les laquais. Et puis, insensiblement, enlevant les obstacles qui gênaient leur amour, elles prenaient la tête du personnage idolâtré, appliquaient un baiser respectueux et sensuel, et puis faisaient place à d'autres heureuses. Cet homme adoré, c'était le cardinal de Rohan.
Son compagnon, frais, joyeux, étincelant, recevait un accueil moins vif, mais aussi flatteur, aux proportions gardées. D'ailleurs, on le payait en cris, en vivats. Les femmes se partageaient le cardinal, les hommes criaient « Vive Cagliostro !» Cette ivresse mit une demi-heure à traverser le pont au change, et jusqu'à son point culminant, Jeanne aperçut les triomphateurs. Elle ne perdit pas un détail. Cette manifestation de l'enthousiasme public pour les victimes de la reine, car c'est ainsi qu'on les appelait, donna un moment de joie à Jeanne. Mais aussitôt, quoi, dit-elle, ils sont déjà libres, déjà pour eux les formalités sont accomplies, et moi, je ne sais rien. Pourquoi ne me dit-on rien à moi? Le frisson l'a pris. À côté d'elle, elle avait senti Madame Hubert, qui, silencieuse, attentive à tout ce qui se passait, devait avoir compris cependant et ne donnait aucune explication. Jeanne allait provoquer un éclaircissement devenu indispensable lorsqu'un nouveau bruit attira son attention du côté du pont au change. Un fiacre entouré de gens gravissait à son tour la pente du pont. Dans le fiacre, Jeanne reconnut, souriante et montrant son enfant au peuple, Oliva, qui partait aussi, libre et folle de joie, des plaisanteries un peu libres, des baisers envoyés à la fraîche et appétissante fille. Voilà l'encens grossier, il est vrai, mais plus que suffisant pour Mademoiselle Oliva que la foule envoyait, dernier relief du festin splendide offert au cardinal. Au milieu du pont, une chaise de poste attendait. Monsieur Beausire s'y cachait derrière un de ses amis qui seul osait se révéler à l'admiration publique. Il fit un signe à Oliva qui descendit de son fiacre au milieu des cris changés tant soit peu en huées. Mais pour certains acteurs, qu'est-ce que les huées quand on pouvait leur infliger les projectiles et les chasser du théâtre? Oliva, montée dans la chaise, tomba dans les bras de Beausire qui, lacérant à l'étouffer comme une proie, ne la quitta plus d'une lieue et, l'inondant de larmes et de baisers, ne respira qu'à Saint-Denis où l'on changea de chevaux sans avoir été gêné par la police. Cependant, Jeanne voyait tous ces gens libres, heureux, fêtés et se demandait pourquoi elle seule ne recevait pas de nouvelles. « Mais moi, s'écria-t-elle, par quel raffinement de cruauté ne me déclare-t-on pas à l'arrêt qui me concerne ?»« Calmez-vous, madame, dit Hubert en entrant, calmez-vous. Il est impossible que vous ne sachiez rien, répondit Jeanne. Vous savez, instruisez-moi. Madame, si vous n'êtes pas un barbare, instruisez-moi, vous voyez bien que je souffre. » « Il nous est interdit, madame, à nous, bas officiers de la prison, de révéler les arrêts, dont la lecture appartient aux greffiers des cours. »« Mais alors, c'est donc tellement affreux que vous n'osez !» s'écria Jeanne dans un transport de rage qui fit peur au concierge et lui fit entrevoir le renouvellement des scènes de la veille. « Non, dit-il, calmez-vous. Alors parlez !» Serez-vous patiente? Ne me compromettrez-vous pas? Mais je vous le promets, je vous le jure, parlez! Eh bien, monsieur le cardinal a été absous. Je le sais. Monsieur de Cagliostro mis hors de cause. Je le sais. Mademoiselle Oliva, renvoyée de l'accusation. Après. Monsieur Retau de Villette est condamné. Jeanne tressaillit. Aux galères. « Et moi !» cria-t-elle en trépignant avec fureur. « Patience, madame, patience. Est-ce là ce que vous avez promis ?»« Je suis patiente. Voyez, parlez, moi. » « Au bannissement, » dit d'une voix faible le concierge en détournant les yeux. Un éclair de joie brilla dans les yeux de la comtesse, éclair aussi vite éteint qu'apparu. Et puis elle feignit de s'évanouir avec un grand cri et se renversa dans les bras de ses hôtes. « Que fut-il donc résulté ?» dit Hubert bas à l'oreille de sa femme, « si je lui eusse dit la vérité. » « Le bannissement, » pensait Jeanne en simulant une attaque de nerfs, « c'est la liberté, c'est la richesse, c'est la vengeance, c'est ce que j'ai rêvé, j'ai gagné. »